Nous voulons maintenant nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu ensemble. J'avais l'habitude pendant l'été de faire une série plutôt avec un personnage biblique. J'ai choisi de déroger à cette habitude et de plutôt essayer de nous concentrer sur un thème que nous essayons de développer de différentes manières qui correspond à notre réalité, notre situation, tenir ferme. Et je vous invite à lire deux textes qui disent d'une certaine façon la valeur de la fermeté. Le premier texte se trouve sous la plume de Paul, dans 1 Thessaloniciens 1, les versets 1 à 3. Il sera plutôt illustratif. 1 Thessaloniciens 1, versets 1 à 3, 2 et 3. Paul parle aux chrétiens de cette ville de Thessalonique. Il leur dit « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous ». Faisant mention de vous dans nos prières, nous nous souvenons sans cesse devant Dieu notre Père de l'œuvre de votre foi, du travail de votre amour et de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis deuxième texte, c'est celui qui concentrera plutôt notre attention, c'est dans le livre de Job, je vous invite à lire au chapitre 2, les versets 1 à 10, Job 2, versets 1 à 10. Un récit qui a des côtés un peu étranges, mais qui soulève des enjeux importants. Les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint lui aussi se présenter au milieu d'eux, devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre, de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu, qui s'écarte du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et toi tu m'incites à le perdre sans cause, pour rien. » Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie, mais étends sa main. Touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. » L'Éternel dit à Satan, « Le voici, il est en ton pouvoir, seulement épargne sa vie. » Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Job prit un tesson pour se gratter et s'assit dans la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité ? Maudis Dieu et meurs !» Mais il répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi ? Nous recevrions de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal ? » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Nous connaissons des temps bien exigeants en ce moment. Le rêve de tout été, c'est l'insouciance, la légèreté. Et notre pays a revécu cet été l'horreur et l'inimaginable. On aurait voulu se régaler sans arrière-pensée des grands événements sportifs et culturels, mais impossible d'évacuer désormais la crainte tenace qu'il arrive quelque chose. Les annulations des grands événements se succèdent. Aucun sanctuaire ne semble exister. Sécurise-t-on les grandes manifestations ? Une petite église où se retrouvent quelques fidèles sans défense peut être prise pour cible. Le temps de l'insouciance est révolu. La gravité s'invite désormais. On cherche tous, je pense que vous le vivez aussi, à comprendre ce qui se passe. On lit, on pense à des choses très sérieuses. La mort, la douleur, l'angoisse, la solidarité, la résilience. Et puis avec tout cela, de grandes figures nous ont quittés. Michel Rocard, incontestable figure de droiture, de réalisme qui ne se résigne pas. Elie Wiesel, dont la voix unique incarnait tout ensemble et l'horreur du mal absolu des camps nazis, et l'humanité plus forte que l'inhumanité subie, et la foi qui reste aux prises avec Dieu envers et contre tout. Perdre de grandes figures dans des temps d'insécurité, c'est encore un peu plus difficile. Et avec tout cela, il nous faut tenir. Il nous faut tenir. Tenir ferme, pour reprendre une expression biblique. trouver des motivations pour tenir, trouver des ressources pour tenir, réfléchir aux fruits de cette fermeté, mettre en œuvre des dispositions pour tenir. Voilà quelques pistes que je propose pour ces prochains dimanches. Tenir ferme. Incontestablement, la fermeté est une valeur biblique. À plusieurs reprises, nous sommes invités à tenir ferme, justement, ou à agir avec fermeté. On décrit ainsi plusieurs postures. Tenir ferme, c'est souvent rester debout, là où on pourrait s'écrouler, là où on pourrait tomber. Le psaume 20, verset 8 dit « Eux s'écroulent et tombent à terre, nous, nous tenons ferme et nous restons debout ». C'est cette attitude où l'on tient de, reste debout. Tenir ferme, c'est aussi avoir de la constance, tenir une ligne, une attitude. Ésaïe parle d'être ferme dans ses dispositions, au chapitre 26. C'est aussi résister, se battre contre le mal, contre l'adversité, garder son intégrité. L'apôtre Paul nous invite à nous revêtir de toute la panoplie de Dieu pour résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est enfin trouver notre appui, nos appuis en Dieu, avoir une ferme assurance en ce qu'il est, en ce qu'il nous promet. La foi est une ferme assurance, une fermeté aussi dans l'espérance pour affronter les choses. J'aimerais ce matin réfléchir avec vous à la valeur de la fermeté. Nous avons lu deux textes qui affirment cette valeur. L'apôtre Paul dit sa reconnaissance pour la fermeté de l'espérance que manifestent les chrétiens de Thessalonique. Et le Seigneur lui-même dit son appréciation et sa fierté de la façon dont Job demeure ferme dans son intégrité. As-tu remarqué, mon serviteur Job, il demeure ferme dans son intégrité. C'est à partir de cet exemple que nous allons réfléchir ce matin tout particulièrement. L'histoire de Job est à bien des égards une histoire extraordinaire. C'est l'histoire d'une fermeté à toute épreuve. Le récit d'ouverture qui nous présente Dieu aux prises avec, discutant avec Satan, est certainement à des traits un petit peu stylisés pour faire ressortir quelques enjeux. Mais en tout cas, Job est quelqu'un qui va connaître tous les malheurs, mais qui tiendra ferme. Il criera sa souffrance. Il lancera vers le ciel des questions lancinantes, mais jamais il ne reniera son Dieu. Job, la fermeté dans une authentique humanité. Il n'est pas de marbre, ce Job. Job, une fermeté au plus haut niveau. Mais l'histoire de Job, c'est aussi une affirmation de la valeur toute particulière de la fermeté. Dieu lui-même fait l'éloge de la fermeté de Job, nous l'avons lu. Mais cet éloge va devenir l'occasion d'un défi immense lancé à Dieu. Ce défi concerne les motivations qu'on peut avoir à le servir ou à être ferme. Tu es fier de tes fidèles, mais est-ce que tu crois vraiment que tu es aimé gratuitement, que tu es aimé pour rien ? Sans contrepartie. C'est là ce que Satan demande au Seigneur. Déjà dans le chapitre 1, cela est dit, Satan vient et dit, est-ce que d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Est-ce pour rien, sans contrepartie ? Autrement dit, tes fidèles ne sont-ils pas des fidèles simplement à cause des bienfaits qu'ils retirent de toi, à cause des dons que tu leur fais ? Où est la gratuité ? Où est l'authenticité dans les relations que toi, Dieu, tu établis avec ceux que tu appelles tes fidèles ? Voilà le défi qui est lancé à Dieu par Satan, l'adversaire, le diable, celui qui s'oppose à tout ce qu'est Dieu, celui qui caricature tout ce que fait Dieu, celui qui dénigre tout ce que fait Dieu. C'est une question profonde quand même, qui doit être élucidée. Elle met en doute les motivations de ceux qui s'attachent à Dieu. Ceux qui s'attachent à Dieu, dit Satan, le feraient pour des motifs intéressés. Et plus subtilement, elles mettent en doute la méthode de Dieu dans ses relations. Il maintiendrait ses fidèles sous dépendance par le moyen de ses bienfaits, un peu comme quand on est sous perfusion, qu'on a besoin toujours de recevoir ce qui vient là. À la manière des puissants qui achètent par leur faveur ceux qui veulent s'assujettir. Et la question qui se pose, c'est le désintéressement existe-t-il dans la foi? Et comment le montrer? Voilà la question qui est posée autour de cette idée de fermeté. La question est posée à propos de Job, qui est intègre et ferme, mais qui, incontestablement, est quelqu'un de richement béni. Les premières descriptions que l'on fait de Job sont plus qu'enviables. Lisons ce qui est dit au chapitre 1, les 4 premiers versets. « Il y avait dans le pays d'Outz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu, se détournait du mal. Il avait 7 fils et 3 filles. Il possédait 7 000 brebis, 3 000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres, donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Voilà un homme qui possède tout ce que l'on peut désirer. On lui envie sa richesse, on lui envie son bonheur, on lui envie sa vie de famille, les faveurs dont Dieu l'a gratifié. Le plus éminent des fils d'Orient, cela fait rêver. Et on comprend que la question des motivations de cet homme, tellement comblé, puisse être posée. Pourtant, Job le bénit, Job le comblé, reste un homme simple. Sa richesse ne lui monte pas à la tête. Il ne tire pas fierté de sa position. Il ne s'attribue pas sa réussite. Il n'oublie pas que tout lui vient de Dieu. Et le texte nous dit, il révère le Seigneur. Il a à cœur de ne pas lui déplaire. Il veille à cela avec attention, avec constance. Il honore le Seigneur, il se détourne du mal, nous dit le texte. Il veut que toute sa vie honore Dieu. Il va jusqu'à offrir des sacrifices pour ses enfants après leur week-end, au cas où ils auraient offensé Dieu en pensée ou en acte. Cela dit, sa vigilance, son attention à Dieu, son humilité aussi. Devant Dieu, cet homme riche, cet homme comblé, reste pauvre, reste simple. Et j'aimerais souligner, quand on parle de fermeté, cette constance de Job au temps de son bonheur. Cette constance, cette fermeté au temps de son bonheur. Il reste simple, il reste désireux de plaire à Dieu. Il reste vigilant par rapport au mal, il reste reconnaissant et conscient qu'il a besoin de pardon. Toutes ces attitudes, il les cultive alors que tout va bien pour lui, alors que tout est facile, alors qu'il est béni. Il tient ferme envers Dieu au moment du bonheur, au moment de la facilité. Et cela nous interroge sur nous-mêmes. Quelles attitudes développons-nous lorsque tout va bien pour nous? Est-ce que nous cultivons la même simplicité, la même reconnaissance envers Dieu, le même souci de Dieu qui s'exprime très concrètement? La facilité nous rend parfois bien superficiels et bien légers. Pour Job, c'est pourtant là qu'il a manifesté en tout premier la fermeté de son attachement à Dieu. La fermeté se cultive au quotidien ordinaire, dans ce genre d'intégrité que Job a entretenu au temps où tout allait bien pour lui. Et c'est pour nous aussi le premier niveau, le premier socle de la fermeté. Cette fermeté, Dieu l'a appréciée à ce moment-là et dans cette forme-là, car c'est déjà en voyant Job de cette façon-là que le Seigneur dit « Avez-vous remarqué, mon serviteur Job ?» Il est intègre, il est ferme dans tout ce qu'il fait. La fermeté, quand tout va bien, est simple. Mais il faut dire qu'elle est profondément relationnelle. Son objectif, son souci, c'est vraiment de dire au milieu de tout ce que je reçois, je veux donner à Dieu sa juste place. Je tiens, année au Seigneur, sa juste place. Je ne veux surtout pas oublier Dieu alors que j'ai tant de choses qui me sont données. Je ne veux surtout pas oublier la gratitude. Je ne veux surtout pas laisser Dieu sur le quai alors que je m'élance tout à mon bonheur. Une fermeté qui est très relationnelle, orientée vers Dieu, avec le souci de Dieu. Certes, Job est vraiment béni, comme nous le sommes, nous aussi, de bien des manières. Mais le souci de Job dans son intégrité n'est pas d'être encore plus béni ou n'est pas de garantir sa bénédiction. Son souci, c'est de ne jamais oublier celui qui l'a béni. L'accusateur a tort lorsqu'il instille le soupçon. Est-ce rien qu'il craint Dieu, demande-t-il. Est-ce de manière désintéressée qu'il craint Dieu. Est-ce sans volonté de contrepartie qu'il craint Dieu. Le Seigneur, lui, a su lire l'authenticité des motivations de Job. Il nous revient à chacun de nous de nous examiner nous-mêmes, de nous sonder face à cette question. Quel est notre souci alors que tout va bien? Mais Job nous rappelle qu'il existe une intégrité ordinaire, simple, joyeuse, à cultiver lorsque tout va bien. Donner une belle place à Dieu, veiller à ce qu'il ait une belle place au milieu de tout ce que nous recevons de lui. Mais le questionneur insidieux de notre texte ne se satisfait pas de la preuve d'attachement donnée par cette fidélité ordinaire. Et il va mettre cette fidélité au défi de plus. Touche à ce qui lui appartient, dit-il au Seigneur, et tu verras que sa fermeté ne tiendra pas. Et tu verras que son prétendu attachement à toi va fondre comme neige au soleil. Il veut la preuve de plus. Et une fois qu'il aura reçu la preuve par le plus, il demandera la preuve par encore plus. Tu ne l'as pas touché, lui. Touche à ses os, touche à sa chair. Et tu verras qu'il ne reste rien de ferme, rien de solide. La mauvaise foi est évidente. Mais la question a du sens. Qu'est-ce qui prouve la réalité de notre attachement à Dieu? Qu'est-ce qui dit qu'il est vraiment attachement à Dieu, qu'il est vraiment amour profond pour lui? C'est parce qu'il y a une vraie question derrière la mauvaise foi totale de l'accusateur que Dieu entre dans le débat. Nous l'avons dit, ce n'est d'ailleurs pas Job seulement qui est pris à partie, mais c'est le Seigneur lui-même qui est interrogé avec la question de sa capacité à susciter une relation libre, une relation désintéressée. Et Dieu confie en quelque sorte à Job, en qui il a confiance. Il confie à Job de faire la preuve que cela est possible, de faire la preuve que l'on peut être attaché à Dieu par amour et non pas pour la contrepartie de ce qu'il nous donne. J'aimerais juste dire que cette question de la gratuité et de nos motivations n'est pas une question annexe. C'est le cœur même du projet de Dieu qui est ciblé lorsque Satan lui dit « Est-ce que c'est pour rien ? Est-ce que c'est de manière désintéressée que quelqu'un comme Job t'est fidèle ?» La gratuité et l'authenticité font partie du cœur même du projet relationnel de Dieu. La gratuité, d'abord, il faut le dire, c'est le fondement même de tout ce que Dieu fait. C'est le fondement, c'est le motif pour lequel Dieu a créé le monde. Dieu crée le monde par pure gratuité, par pure générosité. La vie que Dieu nous donne, pareillement, c'est gratuité totale. Et lorsque Dieu forme l'humanité en son image et nous place dans ce monde, ce n'est pas pour nous asservir, au contraire. Ce que Dieu veut instaurer, c'est une relation d'amour faite de réciprocité, de liberté, de joie mutuelle, mais sans contrainte, dans le jaillissement d'une authenticité profonde. C'est cela ce que Dieu vise. C'est pour ça qu'il donne. Il n'est pas intéressé par la domination, par le pouvoir qui a servi. Ce qui intéresse Dieu dans la relation avec l'homme, en donnant tout ce qu'il donne, c'est l'authenticité d'un vis-à-vis libre et aimant. C'est cela le projet de Dieu. Et lorsque l'humanité préférera l'indépendance par rapport à Dieu et l'affirmation de soi, le Seigneur, lui, va persévérer dans son projet. Il continue à faire du bien, même à ceux qui ne se préoccupent pas de lui. Et il voudrait que ce soit cette bonté reçue qui les pousse à aller vers lui, qui les pousse à la repentance, à changer d'attitude. Avec Jésus, il fait un pas encore plus grand. Il prend sur lui le châtiment que mérite la révolte humaine. Une générosité 100% pure, un amour 100% lumineux, qui ouvre gratuitement le chemin de la réconciliation. Mais dans cette réconciliation, dans la relation qui s'établit, il ne nous veut ni esclaves, ni serviteurs, mais fils et filles de notre Père Céleste, et en plus héritiers de tous ses dons. Il lui faut aussi restaurer la vie, et restaurer la vie en nous, changer nos vies qui en ont tant besoin. Là aussi, il veille encore et toujours à susciter en nous le vouloir et le faire, de telle sorte que nous vivions, que nous agissions, que nous aimions, que nous choisissions de lui plaire. Quel trésor de patience ne déploie-t-il pas parfois pour que nous prenions les décisions qu'il faut prendre, pour que nous fassions les pas qu'il faut faire. Mais son projet, ce qu'il ne lâche pas, c'est cette relation de vis-à-vis dans l'authenticité, dans le don mutuel, dans la liberté. C'est la marque de fabrique du Dieu créateur. C'est la marque de fabrique du Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est la marque de fabrique du Dieu agissant en nous par son esprit. Et c'est pour ça cette question des motivations, pourquoi est-ce qu'on te sert, pourquoi est-ce qu'on t'aime, cette question est cruciale pour le Seigneur. C'est le cœur de son projet. Job n'est donc pas la victime d'un pari un peu léger entre Dieu et le diable. Job est un fidèle en qui Dieu a suffisamment confiance pour qu'il fasse la preuve qu'un attachement authentique, libre et entier est possible en réponse à la générosité de Dieu. Mais le chemin sera exigeant. Il impliquera un dénuement total pour faire cette preuve, un dénuement radicalisé par l'action de l'adversaire, le mauvais, qui révélera toute sa malfaisance. Et pour nous aussi, c'est au cœur d'un monde marqué par la malfaisance du mal qu'il nous faut tenir ferme et affirmer notre loyauté envers notre Dieu. La suite de l'histoire est épouvantable. Dieu laisse Satan tester son serviteur Job. Et l'on découvre à présent le diable dans ses œuvres. Aucune mesure, aucune pitié, aucun respect. Il a une permission du Seigneur, entre guillemets, sur tout ce qui appartient à Job. Il l'utilise sans état d'âme. Le même jour, Job apprend coup sur coup qu'il a perdu tout son bétail, c'était immense, tout son gros bétail, tout son petit bétail, ses serviteurs, et nouvelle atroce, tous ses enfants. Job est frappé, anéanti. L'irrémédiable s'abat sur lui avec une violence inouïe. Satan n'a pas testé la fidélité de cet homme par palier. Est-ce qu'il peut ça? Est-ce qu'il peut ça? Est-ce qu'il peut ça? D'emblée, c'est la frappe maximale. Le dialogue entre Dieu et Satan parlait de ce qui appartenait à Job, évoquait ses troupeaux. Est-ce que nos enfants nous appartiennent-ils? Les toucher, n'est-ce pas nous toucher, nous aussi, très profondément? Le diable ne s'encombre pas de ces détails. Et voilà Job dévasté. Sa blessure est irrémédiable. Il se découvre nu totalement et plus que nous, plus que nu. Il n'a jamais un homme blessé, car il a perdu ce qui ne se remplace pas, ses enfants, et pas un, mais tous. Seul reste sa femme, mais elle est aussi dévastée que lui. Que dire lorsque l'on se retrouve ainsi ? Job découvre d'abord sa nudité profonde. Je suis sorti nu du ventre de ma mère. C'est nu que je retournerai à la terre. Sa nudité profonde. Mais cette nudité lui rappelle que tout est don. Et que ce que Dieu a donné, il a le droit de le reprendre, car ce n'est pas un dû. L'Éternel a donné, dit Job, l'Éternel a repris. Dans sa douleur, dans la conscience de sa nudité, Job ne veut pas oublier la reconnaissance de ce qu'il a reçu, pour ce qu'il a reçu, et dont il découvre l'immense valeur alors que cela lui est enlevé. Que le nom de l'Éternel soit béni, réussit-il à dire, à souffler. Le reste reste embrumé dans le mystère. On fait parfois de cette parole de Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni, une sorte de formule qui règle tout, comme si tout était dans l'ordre désormais. Quel que soit le malheur, on dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. La formule ne règle rien, ne règle rien. Job dit ce qu'il peut dire à Dieu. Tout ce que j'ai, je l'ai reçu de toi. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Oui, que le nom du Seigneur soit béni pour ce qu'il a donné. C'est ce que Job peut dire à Dieu. Le reste, ce qui est mystère, il le tait. Il ne bénit pas Dieu pour la perte de ses enfants. Il remercie Dieu pour ce dont il peut le remercier de lui avoir donné. Mais il choisit cette posture de fidélité quand même, plutôt que la révolte. Il ne parlera pas contre Dieu. C'est là sa loyauté. Une loyauté dans l'indigence, le désarroi, mais une vraie et forte loyauté envers et contre tout. Job, dans sa nudité, prouve qu'il aime Dieu envers et contre tout, prouve qu'il aime Dieu gratuitement. La preuve est faite. Avec une mauvaise foi totale, pourtant, Satan balaye cette preuve d'un revers de main lorsque le Seigneur la lui rappelle. Comme si rien ne s'était passé, il reprend ses allégations et demande un cran supplémentaire dans le test. Touche à sa chair et il te maudira en face. Comme si Job n'avait pas déjà été broyé totalement dans sa chair avec la perte de ses enfants. Comme si on ne préférerait pas souffrir soi-même plutôt que de voir mourir ses enfants. Satan se dévoile comme ce qu'il est lui-même vraiment, le malfaisant sans limite. On l'appelle parfois le malin, mais il est d'abord le malfaisant, et le malfaisant qui malheureusement est aussi malin. Et le voilà prêt à s'acharner sur un homme qui a déjà tout perdu. Le voilà prêt à briser un roseau déjà tellement blessé pour obtenir sa victoire à lui, le malfaisant. Une piètre victoire de tortionnaire qui brise le corps quand il n'a pas réussi à vaincre l'âme. Et le Seigneur mystérieusement consent, avec à nouveau une limite qu'il impose. Il n'est pas dupe des motivations du mauvais. Tu m'incites à le perdre pour rien. Le même mot est repris qu'au chapitre 1. Tu m'incites à l'éprouver à cause de cette gratuité, de cet amour pour rien, sans contrepartie, auquel tu ne veux pas croire, et dont Job a pourtant fait la preuve. Le Seigneur consent, mais pas pour entrer dans le jeu du diable. Il consent parce qu'il poursuit d'autres buts. Il veut faire de Job, en qui il a confiance, un exemple, une inspiration pour d'autres fidèles dans d'autres épreuves. Et c'est ce que Job fera dans une humanité, une authenticité totale, avec une loyauté indéfectible, mais qui défendra toujours son intégrité. Il reste fidèle au Seigneur. Mais jamais Job ne se rabaissera lui-même. Il n'hésitera pas à questionner Dieu, parfois durement, parce qu'il fait face à des questions difficiles. Il le fera et Dieu aimera cette relation-là. Jamais il ne se rabaissera comme ses amis lui disaient en disant « Dis que tu as fait du mal et justifie Dieu et tout ira bien pour toi. » Il aura ce dialogue vrai avec Dieu qui mêlera authenticité et respect. Authenticité, souffrance, oui, mais respect devant Dieu et loyauté. Et le Seigneur l'approuvera pour sa fidélité, mais aussi pour ne pas s'être écrasé lorsqu'on lui demandait de reconnaître qu'il était certainement puni à cause de quelque chose. Job, le triomphe de l'amour et de la loyauté, malgré le dénuement. Un attachement à Dieu, même dans l'incompréhension et sans la moindre contrepartie. Une fidélité épurée de tout, dans un vis-à-vis d'une grandeur sublime, aux accents saisissants. Alors nous ne sommes pas Job, et heureusement, d'une certaine façon, par rapport aux souffrances, on aimerait l'être par rapport à la fidélité. Nous ne sommes pas Job, mais cette figure saisissante nous dit la valeur de la fermeté. La valeur de la fermeté. Nous recevons tant de Dieu. Dieu nous donne tant de choses. Comment exprimer en retour quelque chose d'authentique? Comment exprimer en retour quelque chose de consistant? Accepter passivement ce que Dieu nous donne ne suffit pas, n'est pas la hauteur. Jouir simplement de ce qui nous est donné, sans vouloir répondre par l'amour, serait égoïste, serait réducteur. Nous devons avoir à cœur de donner une réponse consistante à tout ce que nous recevons de Dieu. Ce qui donne consistance à notre réponse, il faut bien le souligner, c'est la durée. C'est la durée, c'est la constance de cette fidélité. Ce n'est pas d'affronter les abîmes ou les extrêmes. Et c'est ici qu'il est important de rappeler que la fermeté de Job s'est exprimée en tout premier lorsque tout allait bien pour lui. Job a été l'homme d'une ligne de conduite, quand tout allait bien, quand tout a été tellement plus atroce, plus difficile. Job a été l'homme d'une ligne avant d'être l'homme des abîmes et des extrêmes. Le fil rouge qui a marqué, qui a accompagné sa vie, ça a été cet attachement authentique au Seigneur. Attachement simple, dans la facilité, lorsque tout est simple, lorsque tout est facile. Attachement qui tient, lorsque d'autres circonstances surviennent. Attachement qui s'épure, lorsque les choses deviennent tellement plus exigeantes, dans l'épreuve qui est subie. Attachement qui demeure, malgré le mystère, le brouillard de ce que l'on ne comprend pas. Attachement qui s'approfondit lorsqu'il coûte. Attachement qui se vit de nouveau, de manière plus apaisée, lorsque le Seigneur remet au large après l'épreuve. Et c'est ici qu'on pourrait juste souligner ce fait que tenir ferme, cela ne veut pas dire forcément faire des exploits magnifiques en des situations extrêmes. Tenir ferme, c'est tracer la ligne d'un attachement affirmé envers Dieu, au travers des situations diverses, faciles ou difficiles, prévisibles ou non, que nous pouvons connaître. L'authenticité de notre réponse, l'authenticité de notre attachement à Dieu se mesure à cette constance et s'y approfondit. Et la détermination de notre attachement est appelée à se dire en face de chaque nouvelle situation par le fait que nous ne lâchons rien de notre désir de plaire à Dieu. Tenir ferme, c'est un langage consistant, c'est un langage authentique. C'est le langage que le Seigneur lui-même tient envers nous dans sa fidélité, dans le renouvellement de ses grâces. Et nous savons qu'il l'a tenu aussi jusqu'à l'extrême dans le don de son Fils, son unique. Il n'a pas reculé devant cette fermeté-là. Et il apprécie de notre part chaque expression de ce langage, que ce soit dans la facilité, que ce soit dans l'exigence. Il aime ces relations où le mot « aimer » est sincère, où le mot « aimer » est consistant, où ce mot « aimer » est résistant, où ce mot « aimer » est engagé, où ce mot « aimer » est authentique. Tenons donc ferme.